VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes, Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord, le journal. Au Mali, l'hôtel Radisson Blu de Bamako a rouvert ses portes aujourd'hui, quelques semaines à peine après l'attaque du 20 novembre contre cet établissement par des djihadistes qui a fait 21 morts. Opération revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique et son allié Al-Mourabitoun. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
25 jours ont suffi pour enlever les traces des balles, des vitres brisées ou encore redresser les portes tordues ou faire disparaître des odeurs d'armes. L'hôtel Radisson Blu de Bamako refait peau neuve en un temps record. Cela à la satisfaction de ses employés qui reprennent service à l'image de Moussa Traoré.
On souhaite à Allah aussi de nous protéger et Inch'Allah, on est prêt à se combattre pour travailler pour tous nos clients qui ont l'habitude de venir ici.
À travers cette réouverture, on sent beaucoup de changements au niveau des dispositifs sécuritaires de l'hôtel. Parmi les mesures, on peut citer le déploiement des forces de sécurité, les scans des bagages et le système de vidéosurveillance.
Oui, malgré tout ce qu'on a vécu, malgré tout ceux qui ont perdu la vie au Radisson, ce barbarie ne va pas vaincre. Nous, on est prêts à le combattre jusqu'au bout.
La direction de l'hôtel Radisson est plus que jamais déterminée à ne plus baisser les bras face à la barbarie dont elle a été victime le 20 novembre 2015. C'est une équipe réquinquée avec à sa tête M. Gary qui reprend service.
Au moment de rouvrir nos portes, il n'est nullement question d'oublier. Ça serait indécent et impensable. Il faut se souvenir que malgré la peine et les difficultés, la vie suit son cours à notre humble niveau au Mali.
Le président de la République a visité les coins et recoins de l'hôtel qui avait été endommagé par la barbarie du 20 novembre dernier. Ibrahim Boubacar Keïta reconnaît que tout est rentré dans l'ordre.
Nous voici en hôtel Radisson Blu de Bamako, debout, remis à l'œuvre. Qui l'eût cru il y a maintenant deux jours, quand nous rentrons ici, nous fûmes horrifiés par le sang, par l'odeur du sang, par la haine récupérée encore quelque part. Aujourd'hui, que nous soyons ici en si grand nombre et en qualité pour dire combien nous sommes résolus à vaincre la haine et les porteurs de mort.
Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Niger va célébrer dans la sobriété vendredi le 57e anniversaire de son indépendance, a annoncé aujourd'hui le Premier ministre nigérien Brigui Raffini. Et ce en signe de compassion pour les victimes des attaques djihadistes dans le pays et au Tchad, au Cameroun, au Nigeria, au Mali et en France, a précisé M. Raffini à la presse à Maradi, capitale économique du Niger, qui accueillera cette année les célébrations de la fête de l'indépendance. Le groupe islamiste Boko Haram continue ses attaques dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger, l'armée nigérienne peine à contenir ses incursions meurtrières. Au Nigeria, inculpation aujourd'hui de l'ancien secrétaire d'État aux finances Bashir Yoguda pour détournement de fonds dans le cadre du scandale retentissant des ventes d'armes fictives qui secoue le pays depuis déjà plusieurs semaines. Monsieur Yoguda, qui avait occupé son poste ministériel sous la précédente administration de Goodluck Jonathan, est sous le coup de 22 accusations de corruption. Le principal accusé est l'ancien conseiller à la sécurité nationale Sambo Dasuki, qui a été inculpé de charges similaires ce mardi par un autre tribunal. Et puis l'Iran a officiellement protesté auprès du Nigeria après l'assaut de l'armée nigériane contre des chiites à Zaria, dans le nord du pays. Georges Léonard Sagno nous en dit plus.
Le chargé d'affaires du Nigeria à Téhéran a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères qui exige que lumière soit faite sur les violences à Zaria. Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, a téléphoné à son homologue nigérian, Jeffrey Onyema, pour exiger une action immédiate et sérieuse pour éviter la violence contre les chiites. Ce week-end, l'armée nigériane a lancé un assaut à Zaria contre des militants du mouvement islamique du Nigeria, accusé d'avoir tenté d'assassiner le chef d'état-major des armées. L'armée a détruit une mosquée et la maison du chef du mouvement, le cheikh Ibrahim Jacques Jacky, qui milite pour l'instauration d'une république islamique à l'iranienne. Le cheikh Jacques Jacky a déjà été emprisonné à plusieurs reprises. L'assaut aurait fait plusieurs victimes, mais aucun bilan précis n'a été donné. L'armée a fait état dimanche de pertes humaines.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, RCA, alors que les résultats provisoires du référendum constitutionnel sont attendus au plus tard le 18 décembre, le gouvernement de la transition appelle les forces internationales à mettre hors d'état de nuire les principaux responsables des violences dans le pays. Des précisions avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Dans un communiqué, le ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Pagendi, a traité de terroristes les responsables des violences qui ont émaillé le vote référendaire à travers le pays.
Le gouvernement de transition demeure préoccupé par la libre circulation des terroristes comme Noureddine Adam, Haroun Gueye, Tidiane, Abdoulaye Hissène, Edouard Ngaïsona, Koudémon Olivier alias Gbangouma et autres, tous auteurs à répétition d'actes de violence.
Le gouvernement exhorte les forces de sécurité intérieure, la MINUSCA et Sangaris, à mettre hors d'état de nuire les personnes citées. Entre-temps, l'autorité nationale des élections annonce que les premiers résultats du référendum constitutionnel sont attendus le 18 décembre prochain. Après une opération de ses forces ce mardi contre le FPRC Ndélé au nord-est, la MINUSCA a mis en garde tout groupe armé qui tenterait de perturber la paix et empêcher la poursuite du processus électoral sur l'ensemble du territoire centrafricain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Crise au Burundi, un projet de résolution déposé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU appelle au déploiement en urgence d'une mission en territoire burundais pour enquêter sur de possibles violations dans ce pays en proie à la violence depuis plusieurs mois. Plus de détails avec Jacques Aristide.
La résolution sera débattue jeudi lors d'une session extraordinaire du Conseil à Genève, saisie par les États-Unis pour examiner la situation au Burundi. Une initiative qui intervient après une attaque coordonnée vendredi contre trois camps militaires. Elle a été attribuée à des insurgés et un bilan officiel a fait état de près de 90 morts. Le texte appelle le haut commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, à déployer en urgence et aussi vite que possible une mission pour mener une enquête rapide et complète sur les violations des droits de l'homme. Les signataires demandent que soient fournies au Conseil toutes les ressources nécessaires pour remplir son mandat et notamment que le gouvernement burundais autorise la présence d'experts étrangers. Dans plusieurs quartiers de Bujumbura, les habitants ont accusé les forces de l'ordre d'avoir arrêté tous les jeunes qu'ils rencontraient et de les avoir exécutés sommairement plusieurs heures après les attaques. Ces violences sont les plus graves depuis un coup d'État manqué en mai, déclenché par la candidature controversé du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat qu'il a obtenu à l'élection qui a suivi en juillet.
Actualité aux États-Unis maintenant, les principaux candidats à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016 auront leur cinquième et dernier débat de l'année ce soir à Las Vegas dans le Nevada. Le milliardaire Donald Trump reste le favori. Il a même amélioré son score dans les sondages malgré ses dernières déclarations controversées sur la fermeture temporaire des frontières américaines aux musulmans. Idriss Assédoudia fait le point.
Si cette idée a été dénoncée par une majorité d'Américains et les appareils politiques du pays, elle a été applaudie par une majorité d'électeurs républicains, 59% selon un sondage Washington Post ABC publié aujourd'hui, et qui le crédite de 38% des intentions de vote des républicains. C'est différent dans l'Iowa, où aura lieu la première consultation électorale en 2016. Le sénateur Ted Cruz y est en tête, dépassant le neurochirurgien Ben Carson, qui continue sa chute libre dans les sondages. Donald Trump a été accusé d'exploiter à des fins politiques les attaques terroristes du 13 novembre à Paris et du 2 décembre à San Bernardino, en Californie. Nous vivons dans la peur, je ne crée pas la peur, les gens vivent dans la peur. Le sénateur Cruz refusait de condamner Trump, ce n'est plus le cas. Et étant donné que ce dernier est maintenant favori dans l'Iowa, il faut s'attendre à ce qu'il soit désormais la cible des flèches du milliardaire.
Et pour terminer, trois ans après le massacre de l'école Sandy Hook de Newtown dans l'État du Connecticut, le président américain Barack Obama assure que sa détermination à durcir la législation sur les armes à feu reste intacte. Reconnaissant que le Congrès, contrôlé par les Républicains, ne semble pas prêt à bouger sur ce thème, le président américain rappelle que la Maison-Blanche étudie actuellement d'éventuelles mesures qu'il pourrait prendre sans passer par un vote de la Chambre et du Sénat. Farouchement opposé à tout durcissement de la législation, le puissant lobby des armes invoque immanquablement le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis qui autorise la possession d'armes à feu. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.